Vivre heureux, vivons Côtier. Une émission produite et réalisée par Christophe Médici.
Chers amis, bonjour. Quelle joie, quelle chance de vous retrouver en ce samedi pour un nouveau numéro de Pour Vivre Heureux, vivons Côtier. Alors en ce samedi, j'ai eu envie de vous offrir un cadeau, c'est-à-dire vous allez en avoir deux pour le prix d'un. Il est temps là, en ce printemps qui approche, de se poser la question, qu'est-ce que c'est quand on avance en âge? Qu'est-ce que c'est vieillir? Qu'est-ce que c'est grandir? La différence entre vieillir et grandir, c'est quand même de bonnes questions, n'est-ce pas? Est-on un enfant à 30 ans? Est-on encore un enfant à 70 ans? Avons-nous la possibilité de savoir la différence entre bien vieillir? Est-ce que l'amour nous aide dans la vie? Ou est-ce que l'amour est déceptif? Ou est-ce que l'amour nous remplit de bonheur? C'est à cela que nous allons vous répondre et surtout répondre à vos questions avec deux de mes invités, mes deux prestigieux invités. Alors, comme invité, j'ai la chance d'avoir un très bon romancier, vraiment, qui était déjà venu il y a quelques années, André Royer. Bonjour André.
Bonjour.
Le roman d'André s'appelle L'enfant de 30 ans.
C'est ça.
Et puis nous avons aussi l'insigne honneur d'avoir un des plus grands spécialistes du yoga du visage, des âges, de la vie, et un immense expert depuis très longtemps, Alain Pénichaud. Bonjour Alain.
Bonjour Christophe, bonjour aux auditeurs.
Et l'émission évidemment est co-animée par ma co-animatrice Irène Cazenave, hypnothérapeute. Bonjour Irène.
Bonjour.
Vous savez que c'est une émission interactive, hein, donc vous pouvez nous appeler, vous connaissez le numéro de la radio, on est là, tous là, ensemble, pour répondre à vos questions sur l'âge, sur l'amour. Vous allez voir, ce sont deux merveilleux livres, on est là pour vous, Julien est à la réalisation, eh bien appelez, puis on sera là pour vous. On va commencer, chers amis invités, pour que vous, en quelques mots, vous vous présentiez aux auditeurs de Dynamique Radio. Alain Pénichaud, vous voulez bien commencer, qui êtes-vous Alain?
Alors, je ne suis personne, voilà. Donc
ça commence bien.
Ça commence bien, voilà. Donc écoutez, moi je suis auteur de différents ouvrages qui traitent du bien-être depuis de longues années. Donc j'ai travaillé dans la prévention. Je suis animateur socioculturel à la base, et donc j'ai aussi fait un passage dans l'art. Donc j'ai fait un lien entre l'art, le temps, et donc c'est vrai que ce livre autour de l'art de vieillir, pour moi c'est une conjugaison entre qu'est-ce que l'on fait de sa retraite, qu'est-ce que l'on fait de sa vieillesse, et comment vieillit-on actuellement en 2004 dans notre société.
2024.
Et donc comment vieillit-on, et est-ce qu'on vieillit bien, et est-ce que psychologiquement parlant on est suffisamment prêt à se séparer de la vie d'avant, qui était la vie travaillée, surtout lorsque l'on passe à travers cette vie avec ce temps libre.
Eh ben, on va voir tout ça, Alain. Voilà. On va évidemment égrener pas mal des chapitres de votre merveilleux livre. André Royer, pour les auditeurs de Dynamique Radio, pouvez-vous vous présenter, André?
Alors, moi, je suis écrivain et j'ai eu deux vies, on va dire. Auparavant, j'étais metteur en scène. Metteur en scène de théâtre pendant 20 ans. Et puis j'ai toujours écrit, par contre, depuis que je suis adolescent. Et là, je ne fais plus qu'écrire parce que j'ai complètement changé de vie, de nom, d'activité. J'ai tout changé. Et voilà.
Et vous avez envie de tout changer. On peut vous demander votre âge, André?
47.
47 ans. Oh, vous ne les faites pas.
Mais je sais, c'est pour ça que
j'ai 47 ans.
J'ai la oui, méthode pour rajeunir.
Ah oui. Alors, on a vraiment une synchronicité, n'est-ce pas, Irène, dans cette émission? Parce que quand on a eu envie de mettre André Royer avec Alain Pénichaud sur le même plateau, d'abord parce que dans le roman d'André, il y a des petits clins d'œil à des vieux, à des personnes âgées, et puis au grand-père. On va voir le grand-père à un moment donné. Donc, il y a des ponts. Et puis regardez, 47 ans, André, on fait 30, quoi.
Bah oui, l'enfant de 30 ans, c'est moi.
L'enfant de 30 ans. Qu'est-ce que vous en pensez, Irène Cazenave, hypnothérapeute?
Qu'est-ce que je pense du fait de... c'est curieux dans notre société où on complimente les gens quand ils ne font pas leur âge. Il y a quelque chose comme ça où on est aussi dans une ère un peu du jeunisme où il y a vraiment un compliment de « on ne fait pas son âge » alors qu'il y a quelque chose où de cette valorisation du juvénile qui peut être qu'on peut interroger aussi.
C'est très intéressant, c'est vrai, Alain Pénichaud, que oui, d'ailleurs fait, c'est un business et vous en parlez pas mal. Ouais, beaucoup de gens pour perdre un an physiquement vont dépenser des milliers d'euros.
C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a on a perdu le sens de ce beau vieillir, hein, c'est-à-dire cet accompagnement que les gens avaient d'une façon naturelle, c'est-à-dire que par des rites, par l'imitation au niveau sociétal où les gens savaient qu'on vit, on meurt et que ce jeunisme apparaît effectivement lorsque on a peur de la mort.
Et là, vous dites dès les premiers chapitres que pour vous, vieillir, c'est faire un deuil, n'est-ce pas ? Il y a un deuil à faire quand on vieillit.
Alors,
vous pouvez développer pour les auditeurs.
C'est pas qu'un deuil, c'est-à-dire que c'est faire le deuil de un petit peu de sa vie travaillée, mais c'est aussi faire peut-être le deuil, c'est-à-dire qu'il y a comme une mutation. Donc moi, je le vois à travers la clientèle, à travers les personnes que je côtoie depuis longtemps maintenant, et je vois en fait un petit peu le désarroi que créent des formes d'attachement, et justement le jeunisme vient d'une forme d'attachement à une image de soi qui n'existe plus.
Qu'on ne veut pas perdre.
Qu'on ne veut pas perdre. Hein, même j'écoutais hier, avant-hier, il y a trois jours, je sais plus. Et donc c'était une émission avec Henri Laborie, prix Nobel, ce biologiste. Et il explique, il dit, je ne comprends pas pourquoi les gens se teignent les cheveux. Et en fait, il explique que lui, à 70 ans, ne se teint pas les cheveux.
Bon, bah, c'est
parce qu'il prend des vitamines.
Mais en même temps, on prend la liberté.
Oui, c'est ça.
Vous avez des gens qui aiment mettre des perruques, d'autres pas. Il y a des gens qui sont chauves à 20 ans et ça leur pose pas de problème.
Mais je pense que tout ça, ça relève de l'extérieur et je pense que c'est là où est le jeu de la vie. C'est-à-dire, voilà. C'est savoir jouer avec l'extérieur.
On va voir tout ça, ce jeu de la vie. D'ailleurs, jeu de la vie, ça fait un pont avec votre roman, André Royer. J'ai beaucoup aimé votre roman. Vraiment, vous êtes un vrai auteur. C'est bien écrit. C'est un cagneux qui vous parle, qui a des millions de livres de romans au compteur. Mmh. Il y a un style, vraiment. Vraiment, d'ailleurs, vous êtes édité chez Laure Payeur. Mmh. Quant à vous, Alain Pénichaud, vous êtes édité chez un éditeur que je connais, puisqu'on est, on est le même éditeur, les éditions Lanor. Vous avez vraiment un style, André, vraiment, vraiment, vraiment.
Puis j'ai eu le temps de peaufiner, parce que finalement, j'en ai écrit une trentaine.
Il y en a 28 qui n'ont pas été édités. Oui, oui. Mais alors, d'ailleurs, bon, alors, chers amis auditeurs, passons dans le vif du sujet des deux livres. Votre héros s'appelle Carole, c'est un homme.
Oui.
Mais alors, moi, je me suis posé toute la question parce que je pensais que c'était autobiographique. Carole, il est journaliste sportif et il est sur tous les grands trucs. Il est à Moxie Foot Tennis, il interviewe Nadal, Federer, il est pote avec Bartoli. Après, il fait les JO. Ça, c'est pas de l'autobiographie. Inventé. C'est
oui,
inventé.
Oui. Non, je suis écrivain, je suis pas le droit.
Et alors, pourquoi ce Carole? Il y a un fantasme d'avoir été, vous auriez rêvé d'être journaliste
Non, pas du tout, mais bon, comme je viens de le dire, j'ai écrit de très nombreux romans, donc à chaque fois je cherche quand même des situations différentes, pas toujours répétées, et à la fois je ne vais pas faire de tous mes personnages des écrivains parce que ce serait très 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 ennuyeux, donc je cherche, je voulais qu'il ait une sensibilité littéraire tout de même, même si son boulot ne s'y prête pas forcément, mais quand même, qu'il y ait quelque chose de l'écrit dedans. Et,
il le dit.
Oui, et qu'il voyage. J'en avais besoin pour un moment, passage du roman. Enfin, il y avait toutes des sortes de critères comme ça. Quand j'écris, et quand je commence toujours par les personnages quand j'écris, je réunis les ingrédients pour que la profession, s'il y a besoin de la dire, du personnage, me serve. Ne soit pas inutile.
Alain, elle dit qu'elle se sert de ses personnages. Il dit qu'elle se sert de ses personnages. Il dit, parce que d'ailleurs on voit l'ancien homme de théâtre. Et vous citez à un moment donné Shakespeare. Vous citez que chaque être humain, j'adore cette phrase de Shakespeare, la vie est un grand théâtre où chacun fait ses entrées et ses sorties et qu'on joue chacun des rôles divers et variés. Donc, est-ce que ce serait, ça c'est pour faire un écho à ce que André vient de nous dire, un rôle nouveau, l'âge d'une personne senior, on les appelle comme ça, avec beaucoup de respect, alors qu'il y a l'âge du milieu de vie, il y a l'âge de l'enfance, est-ce que ce serait un rôle, un nouveau rôle?
Alors,
à trouver.
Et c'est une très bonne question parce que, en fait, c'est vrai que plus on vieillit, plus on se dénude quelque part parce qu'on va vers l'essentiel. Et c'est vrai que, par exemple, au XVIIIe siècle, jamais il aurait été bienséant de montrer, par exemple, ses cheveux. On portait des perruques.
C'est vrai.
C'est-à-dire qu'il y avait bon, je parle bien sûr au niveau de la cour, hein, donc le peuple vivait autre chose. Mais c'est vrai que plus on vieillit, plus on est appelé à pouvoir utiliser, je dirais, un peu le jeu de la vie pour vivre des facettes de son être qui ne se sont peut-être pas révélées durant la vie travaillée, hein, peu importe le travail que l'on a
là
fait.
Là, vous êtes très optimiste, Alain Pénichaud, parce que moi, je vais battre en brèche, je sais pas ce que vous en pensez tous les deux, cette croyance limitante qui est que toute personne qui vieillirait se bonifierait. Or, on est tous autour de cette table, c'est faux. Tu as des gens qui empirent en vieillissant.
Oui,
tu as des gens qui viennent des vieux cons, comme aurait dit Brassens, et qui étaient peut-être mieux jeunes que vieux. C'est-à-dire que moi, je pars toujours de cette idée, chers amis auditeurs, sachez-le, que vieillir, c'est naturel. On a là deux personnes. Vous citez certaines personnes âgées, André, hein, dans votre roman. Mais Alain, on va revenir sur cette question de la différence entre vieillir et grandir. On va passer une page musicale. Vous êtes très nombreux à appeler. Je sais que vous voulez poser des questions à nos deux grands auteurs, que ce soit André ou Alain. On vous promet, on va essayer d'avoir le plus grand nombre de gens possible. Restez avec nous, c'est passionnant. On va égrener ces âges de la vie. On va égrener un magnifique roman, L'enfant de 30 ans, comme si à 30 ans, on pouvait rester un enfant. Restez avec nous, on vous promet, on vous avoir en ligne. Première page musicale.
Il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux, mon vieux. Il y avait qu'un dimanche par semaine, les autres jours c'était la graine qu'il allait gagner comme on peut, mon vieux. L'été, on allait voir la mer. Tu vois, c'était pas la misère, c'était pas non plus le paradis. Eh ouais, tant pis. Dans son vieux par-dessus râpé, il a pris pendant des années le même autobus de banlieue, mon vieux. Le soir, en rentrant du boulot, il s'asseyait sans dire un mot. Il était du genre silencieux, mon vieux. Les dimanches étaient monotones. On ne recevait jamais personne. Ça ne le rendait pas malheureux, je crois, mon vieux. Dans son vieux par-dessus râpé, les jours de paye, quand il rentrait, on l'entendait gueuler un peu, mon vieux. Nous, on connaissait la chanson, tout y passait, bourgeois, patron, la gauche, la droite, même le bon Dieu, avec mon vieux. Chez nous, il n'y avait pas la télé, c'est dehors que j'allais chercher. Pendant quelques heures, l'évasion. Je sais, c'est con. Dire que j'ai passé des années à côté de lui, sans le regarder. On a à peine ouvert les yeux, nous deux. J'aurais pu, c'était pas malin, faire avec lui un bout de chemin. Ça l'aurait peut-être rendu heureux, mon vieux. Mais quand on a juste 15 ans, on n'a pas le cœur assez grand pour y loger toutes ces choses-là. Tu vois, maintenant qu'il est loin d'ici, en pensant à tout ça, je me dis, j'aimerais bien qu'il soit près de moi, papa.
Cette chanson est de circonstance, puisqu'elle s'appelle Mon Vieux, de Daniel Guichard. On a un premier radio coaché.
Christophe Médici, Radio Coaché.
Bonjour Nathalie.
Bonjour Christophe. Donc,
bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir sur les ondes de Dynamique Radio dans Pour Vivre Heureux, Yvon Cotché. Donc vous connaissez nos deux invités, hein, vous en connaissez un des deux. Donc on a André Royer avec nous sur le plateau pour son roman L'Enfant de 30 ans, n'est-ce pas? Et on a oui. Alain Pénichaud qui a écrit un livre, un de ses énièmes livres qui s'appelle L'Art de Bien ou de Vieillir. Alors, vous, c'est plutôt une question à André Royer que vous voulez poser, n'est-ce pas, hein? Qu'est-ce que vous voulez poser comme question à André? On vous écoute, Nathalie.
Bonjour André.
Bonjour.
Je voulais poser une question sur le rythme de l'écriture. J'ai démarré le roman L'Enfant de 30 ans.
Oui.
Et ce qui m'a interpellé le plus, oui. surprise, c'est le rythme de l'écriture. Donc, je trouve très singulier, personnel.
Oui.
Voilà. Donc, je posais la question directement.
Oui. Alors, allez-y. C'est ça votre question? Vous lui demandez est-ce qu'elle a réfléchi à son rythme et au style? C'est ça, là, votre question, Nathalie, n'est-ce pas? C'est ça?
C'est ça.
Bon, André Royer, c'est vrai qu'il y a un style, un rythme très propre, qui vous est propre. Comment vous travaillez par rapport au rythme de vos phrases?
Alors, le rythme... D'ailleurs, c'est un bon mot parce que je travaille sur le rythme principalement. C'est ça qui fait le style. Du rythme découle le style. Ça fait très longtemps que j'écris, comme je l'ai dit. Donc, du coup, j'ai eu le temps de peaufiner l'histoire. Ça m'intéresse autant la forme que le fond.
Vous savez ce que disait Victor Hugo à ce sujet-là?
Non, dites-moi.
La forme, c'est le fond qui remonte à la surface.
Oui, ben voilà.
Très jolie phrase.
Ouais, super.
Et j'ai presque quelque chose de rythmique quand j'écris. C'est comme si j'entendais une sorte de rythme. Donc des fois, on a peut-être presque l'impression que des choses riment sans faire exprès, mais c'est pas forcément sans faire exprès, tout en gardant quelque chose de fluide, parce que ça n'est pas de la poésie, c'est du roman en prose. Mais il y a quelque part des incidences de vers, comme ça.
Ça vous a fait penser à quoi, Nathalie, quand vous lisez le style de d'André Royer?
Oh, moi, je pense très vite à la musique. Bon, là, en plus, je ne sais pas si on peut dire beaucoup de choses sur le livre. Mais bah, bon, déjà,
en dire trop et pas assez des deux livres pour que les auditeurs aient envie d'acheter les deux. C'est toujours ni trop ni trop peu. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on va parler des livres.
Moi, je connais très peu André. Nous nous sommes rencontrés à un salon du livre puisque moi j'ai un bouquin également chez le même éditeur que celui où est paru L'Enfant de 30 ans.
Alors, Payeur aussi, alors,
Nous avons échangé un peu. Ouais. Moi, j'imagine qu'il écoute beaucoup de musique. Enfin, je connais pas sa culture. Est-ce qu'il peut nous en parler un peu?
Ah, c'est intéressant. Est-ce que vous écoutez de la musique de vieux? Ou est-ce que vous écoutez de la musique de Jones, André?
J'écoute de la musique de jeunes.
De jeunes. Qu'est-ce que vous écoutez, André?
Ah, bah, alors, ça va vous surprendre, mais j'écoute de la K-pop.
Carrément.
Je suis fan de BTS et je le revendique parce que je suis très fière d'être fan de BTS. Voilà. Donc oui, ça n'a peut-être rien à voir avec l'écriture, mais en l'occurrence, si, parce que quand j'écris, j'écoute toujours de la musique.
Ah, vous écrivez en musique?
J'ai toujours les écouteurs sur les oreilles et un verre de vin. Et j'écris en même temps.
Et vous écrivez en musique?
Voilà.
Donc, et il y a la K-pop dans votre cerveau quand vous écrivez?
Totalement. Parce qu'en fait, ça me donne une sorte de rythme. En plus, ça m'entraîne. Je suis entraînée et finalement, ça part tout seul.
Alors, quand même, pour nos auditeurs de Pour Vivre Heureux, ils vont coacher, les éclairer un petit peu. Moi, je ne connais que par un ou deux reportages vus dans des émissions, hein. La K-pop, ça vient de Corée du Sud, hein, si
c'est
je me rappelle bien. C'est de la musique coréenne.
Je parle coréen.
Et vous parlez coréen?
Oui.
Ah oui, vous êtes éclairée, Nathalie. André, non seulement il écoute de la K-pop, il parle coréen.
Et russe et anglais et un peu d'allemand.
Mon
enfin,
Dieu.
Plusieurs langues.
Alain, vous connaissiez la K-pop?
Du tout, je découvre.
Irène Cazenave, vous connaissez la K-pop? De loin dans le brouillard.
De loin.
Non mais de loin, on est très honnête, c'est de la musique de jeunes.
Hein. Ah bah, c'est pour ça que j'ai répondu à la question.
Oui, c'est de la musique de jeunes. Après, c'est respectable, ça se laisse écouter. Ça a une cote incroyable mondialement connue. Des groupes, alors certainement un des plus groupes les plus connus que vous avez cités,
BTS,
André.
Oui, oui.
C'est des millions et des millions et des millions de followers, des millions de vues sur YouTube, Insta, TikTok. Enfin, c'est l'hystérie, presque comme pour les Beatles dans les années 60. Je veux dire, ces groupes de K-pop-là, c'est des idoles dans leur pays et pas que dans leur pays, n'est-ce pas, André, hein? C'est vraiment...
Oui, mais moi, j'adore prendre le contrepoint. C'est-à-dire que j'ai pas du tout la tête à ça. Je suis un écrivain qui travaille seul chez moi. Je suis pas du tout fan de base. Je vais pas au concert ou quoi. Et à la fois, j'écoute ça quand même parce que j'aime bien prendre complètement l'inverse de l'endroit où on m'attend.
Alain Pénichaud, c'est intéressant d'ailleurs la question que pose Nathalie. Je trouve qu'en tout début d'émission qu'on ait cette question-là parce que quand on parle de musique, moi qui viens d'écrire un livre, Découvrir sa mission de vie grâce à la mélothérapie, il y a des âges et des générations qui existe, n'est-ce pas? On dit en ce moment qu'il y a 5 générations qui coexistent en France, chers amis auditeurs, hein, de la génération, voilà, des boomers, hein, jusque les générations oui. alpha et la génération milléniale et tout. Et effectivement, vous le disiez en off, je pense qu'on vient de passer Daniel Guichard. Il y a beaucoup de moins de 30 ans. Daniel Guichard, je connais pas les remplaçants du PSG, quoi. Je veux dire, qui est-ce Daniel Guichard? Et même Brel, même Barbara. Je suis heureux parfois. Alors, je voudrais que vous nous fassiez un retour sur la musique et les âges de la vie.
Alors, c'est vrai que lorsque l'on vieillit, on emmène avec soi souvent un petit peu le patrimoine culturel qu'on a reçu déjà avant de vieillir. Donc effectivement, toutes les chansons à texte, la France est quand même le lieu de le creuset de merveilles au niveau des chansons, au niveau des interprètes. Il y a vraiment un style, il y a vraiment de la mélodie, de l'harmonie, enfin, etc. Donc après, tout change effectivement selon ce que l'on met dans sa vie, je dirais, et surtout ce que l'on souhaite, je dirais, pour un petit peu pour amarrer son bateau sur une vie nouvelle. Est-ce que l'on veut une vie nouvelle lorsque l'on vieillit, ou est-ce qu'on prolonge un petit peu tout ce qu'on a pu connaître auparavant? Et c'est vrai que moi, je connais une personne, par exemple, qui s'intéresse à énormément de choses. Tout ce qu'elle a reçu, elle ne veut plus entendre parler de tout ce qu'elle a pu recevoir jusqu'à l'âge de 60 ans. Et elle le fait de façon très instinctuelle. Et c'est un peu...
Elle balaye. Des périodes de sa vie.
Total.
Ah ouais.
Et donc, il y a comme un déni. Et donc, elle veut s'ouvrir à la jeunesse. Elle veut s'ouvrir. Et je pense que quelque part, alors, est-ce qu'il y a une peur de la mort? Et donc, elle n'aborde pas ce sujet. J'ai essayé d'aborder ça avec elle, mais elle veut pas en entendre parler. Ça l'intéresse pas. Et en fait, voilà. Donc, elle a fait de la chirurgie esthétique.
Ouais, c'est ça.
Elle mange végane. Et pour elle, ça la stimule suffisamment mentalement pour se sentir différente. Et lorsque si je l'invite à dîner, elle me dit surtout t'invite des jeunes gens.
Bon, en tout cas, Nathalie, vous avez eu votre réponse. Merci d'avoir participé à l'émission. On vous embrasse. Et puisque vous avez écrit un livre, un jour vous viendrez peut-être vous aussi.
Ah, pourquoi pas, mais je n'habite pas.
Voilà, avec joie. En tout cas, on vous dit à bientôt. On vous embrasse. Et si vous voulez réécouter l'émission, samedi à 12h, Nathalie, on vous embrasse. Au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir.
Ça fait 100 longs hivers que j'use le même corps. J'ai eu 100 ans hier, mais qu'est-ce qu'elle fait la mort? J'ai encore toute ma tête, elle est remplie de souvenirs, de gens que j'ai vus naître, puis que j'ai vus mourir. J'ai tellement porté de deuil que j'en ai les idées noires. Je suis là que je me prépare, je choisis mon cercueil, mais le docteur me répète visite après visite, j'ai une santé parfaite, il est là qui me félicite. J'ai eu la première guerre, le premier téléphone. Me voilà centenaire, mais bon, qu'est-ce que ça me donne? Les grands avions rugissent, il y a une rayure au ciel. C'est comme si l'éternel m'avait rayé sa liste. Ça fait 100 longs hivers que j'use le même corps. J'ai eu 100 ans hier, mais qu'est-ce qu'elle fait la mort? Qu'est-ce que j'ai pas fini, qu'il faudrait que je finisse? Perdre un dernier ami, enterrer mes petits-fils. J'ai eu 100 ans hier, ma place est plus ici. Elle est au cimetière, elle est au paradis. Si je méritais l'enfer, alors c'est réussi. Car je suis centenaire et je suis encore en vie. Moi je suis née aux chandelles, j'ai grandi au charabon. Bien sûr que je me rappelle du tout premier cent ans hier. C'est pas que j'ai pas prié, mais ça aurait tout l'air que Dieu m'a oublié. Alors j'ai des gardiennes, que des nouveaux visages, des amis de passage payés à la semaine. Elles parlent un langage qui ne sera jamais le mien. Ça me fait du chagrin d'avoir cinq fois leur âge et mille fois leur fatigue immobile à ma fenêtre, pendant qu'elle navigue tranquille sur Internet. C'est vrai que j'attends la mort, mais c'est pas que je sois morbide, c'est que j'ai 100 ans dans le corps et que je suis encore lucide. C'est que je suis avide, mais qu'il n'y a plus rien à mordre. C'est que mon passé déborde et que mon avenir est vide. On montre à la télé des fusées qui décollent. Est-ce qu'on va m'expliquer ce qui me retient au sol? Je suis d'une autre école, j'appartiens à l'histoire. J'ai eu mes années folles, j'ai eu mes mort.
J'adore cette chanson de cette immense chanteuse poétesse québécoise qui s'appelle Linda Lemay, la centenaire, qui est une chanson de circonstance pour notre émission. Vous êtes très nombreux à appeler, vous voulez poser des questions à nos deux immenses auteurs, André et Alain. On a une nouvelle Radio Coachée.
Christophe Médici, Radio Coachée.
Bonjour Georgia.
Bonjour.
Nous sommes ravis de vous accueillir sur les ondes de Dynamique Radio. Alors, vous savez que nos deux invités sont Alain Pénichaud et André Royer. Vous avez plutôt une question, je crois, à poser à Alain Pénichaud, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Dites-nous.
Alors, que faut-il faire pour éviter de vieillir?
Alain Pénichaud, alors, que faut-il faire pour éviter de vieillir? C'est une vaste question.
C'est une vaste question et je ne sais pas si je pourrais répondre à Georgia, mais c'est vrai que l'art de vivre, c'est conjuguer les différents aspects de la vie, c'est-à-dire au niveau physique, physiologique, émotionnel, psychologique, hein, et donc émotionnel. Je pense que ça va être très important lorsque l'on vieillit, parce qu'on est beaucoup plus sensible à l'interaction avec le monde, avec les informations, avec il y a une forme d'interaction et c'est vrai que plus on vieillit, plus on devient quelque part un peu perméable. Et c'est vrai que je pense qu'il faut savoir se protéger, il faut savoir rire surtout, et donc il faut savoir, comme disait un philosophe grec du nom de Pyrrhon, il faut savoir être indifférent un petit peu au monde lorsque l'on vieillit, tout en étant intéressé. C'est une façon d'être indifférent et, comme disait quelqu'un, être indifférent, c'est faire la différence.
C'est voilà, joli, ça.
Il faut savoir faire la différence lorsque l'on vieillit et ne pas se laisser avoir par, je dirais, un petit peu par toutes les modes, toutes les pensées uniques. Et c'est une remise en question, le fait de vieillir, hein, pour l'art de vieillir de Victor Hugo, c'était le début de la sagesse. C'est-à-dire que nous sommes des bibliothèques, comme on dit en Afrique, lorsqu'une personne âgée part, on dit c'est une bibliothèque entière qui disparaît. Hein. En France, on dit quand une personne âgée part, ça veut dire ça fait une place libre à l'EHPAD.
Ouais, c'est terrible.
Donc, on est passé dans un cursus tellement économique qu'on n'a plus de référence sur cette notion du beau vieillir, comme je l'appelle, et qui est une notion où tout se conjugue dans, entre les humeurs, entre ce que l'on mange, entre ce que l'on pense.
Alain, est-ce qu'on pourrait faire un pont avec vous et votre, le livre d'André aussi? André, le héros, Carole, il parle de, souvent de son grand-père. Son grand-père l'a beaucoup marqué.
Oui.
Est-ce qu'il est dans le bien vieillir dont parle Alain Pénichaud, son grand-père? Pourquoi il est autant fasciné par son grand-père?
Il est fasciné par son grand-père parce qu'en fait, il y a une histoire familiale qui se joue autour de son handicap. Parce que son, ce personnage de Carole...
Oui, alors, Carole est handicapée, voilà. Chers amis auditeurs. Il a une béquille, hein, ouais.
Il a une jambe qui ne fonctionne pas.
Une jambe qui ne fonctionne pas.
Voilà, donc, et son grand-père, en fait, il y a une sorte de résonance avec son grand-père qui était polonais, ou Carole avec un K, c'est le prénom du...
Comme un certain pape, vous le dites d'ailleurs.
Voilà, ouais, c'est ça.
Comme un
et
certain
son,
pape.
Son père polonais qui aurait eu l'âge de se battre pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale, et puis qui en fait était planqué en France et quelque part n'arrivait plus à tenir droit.
Vous connaissez la blague, parce que, excusez-moi, là, on va mettre un peu de légèreté, mais puisque vous parlez de Carole, c'est le nom de votre, et c'était, évidemment, chers amis auteurs, vous avez tous compris, c'était le prénom de Carole Wojtyla, qui était Jean-Paul II.
Oui, c'est
mais
pour
vous
ça
la
que
connaissez,
je fais la blague
la,
dans
vous
le
la connaissez, la blague, tout le monde la connaît, je l'ai dit aux auditeurs de Pour Vivre Heureux, Yvon Cotché, c'est une blague qu'on racontait il y a une dizaine d'années, elle est gentillette, mais, évidemment, c'est une blague, hein. Vraiment, je marche sur des œufs, donc c'est une blague, c'est une blague, c'est une blague. On est, je suis pas Guillaume Meurice à France Inter, hein. Voilà. Je ne suis pas Guillaume Meurice à France Inter. C'est une blague. On est en 30, on est en 35. C'est une blague. À Varsovie. Et le ghetto vient de s'ouvrir. Bon, parce que déjà à Varsovie, les Allemands sont déjà là. Et donc, il y a des jeunes néo-nazis qui courent après un jeune Polonais. Il le course, parce qu'ils veulent le tuer. Et évidemment, à un moment donné, il se retrouve dans une impasse, il se retourne, et il est face à deux jeunes néo-nazis, et d'un seul coup, Dieu arrive, Dieu en personne, et il dit, toi là, jeune néo-nazi, ne tue pas ce jeune Polonais. Et le jeune néo-nazi dit, pourquoi je ferais ça? Mais alors, qu'est-ce que tu me donnes en retour? Il dit, tu sais pourquoi tu dois pas le tuer? Parce qu'il sera pape un jour. Je m'en fous. C'est un juif. Et c'est un... Bon, qu'est-ce que tu me donnes? Bon, allez, tu le seras aussi. Elle est très bonne. C'est très clair. Je sens qu'un ange, ça a jeté un froid. Mais tout le monde connaît mes allusions. Et cette histoire a été une histoire drôle. Allez, revenons très sérieusement à votre magnifique roman. L'enfant de 30 ans, ses grands-pères, il l'a marqué quand même. Hein.
Il l'a marqué dans son corps, la preuve en est. Qu'une de deux générations après, il pense que ça vient de là, si on peut dire.
Il pense que ça vient de là. Oui, oui, oui. Georgia, tout ce que vous a dit Alain Pénichaud, ça vous a parlé? Comment ça fait écho? Comment
je suis tout à fait d'accord avec lui.
Vous êtes tout à fait d'accord avec lui. Vous-même, on peut vous poser la question, vous êtes du côté des seniors ou pas encore, Georgia?
Oui, je suis dans les seniors, mais je me sens très bien. J'ai toute la jeunesse devant moi.
Et vous sentez que la jeunesse... vous savez, le grand philosophe disait, on est vieux quand on n'a plus de projet. On est d'accord, hein? Tant qu'on a envie de faire des choses, qu'on a une mission de vie.
Plein de projets.
Voilà. Quand on a des projets, ça vient du latin projet. C'est vrai, Alain Pénichaud. Mais j'aimerais vous poser cette question, parce que la question de Georgia nous fait penser à un moment donné, vous parlez de quelque chose, et c'est vrai que je ne connaissais pas dans votre livre, c'est dans les premiers chapitres. Vous parlez de la gérontotranscendance, hein, c'est ça?
Gérontotranscendance. Alors c'est un scientifique norvégien. Alors c'est une émission que j'entends sur France Inter. J'ai une amie qui me dit écoute cette émission. Et donc ce concept de gérontotranscendance qui est l'aboutissement des neurosciences quelque part et un petit peu, je dirais. D'un mode d'emploi un petit peu d'un pack un peu pour seniors et donc je l'ai mis
c'est
un peu
quoi,
dans
très simplement Alain c'est quoi la gérotranscendance?
Alors la gérotranscendance en fait ça va être un peu une éducation pour les seniors, c'est-à-dire au niveau comportemental, c'est-à-dire pour éviter de se replier sur soi-même, on va dégager beaucoup plus d'altruisme.
C'est s'ouvrir aux autres.
On
en
s'ouvre
tant que
aux
senior.
Autres. Ouais. On va développer, je dirais, une capacité de légèreté face à la vie. Enfin, voilà, il y a plein de tendances. Hein. Peut-être sur Internet, les gens peuvent trouver. C'est un philosophe norvégien, scientifique norvégien qui travaille avec ses neurosciences. Et en fait, on retrouve toutes les leçons de la philosophie dedans. C'est-à-dire qu'on n'attend pas de nous dire que le fait de s'ouvrir aux autres est un message effectivement bénéfique. Les gens qui ont un petit peu d'instinct, qui vivent un petit peu ce qu'ils sont, partagent un petit peu cet élan vers l'autre. Hein, c'est-à-dire que plus on vieillit, alors, plus
ça,
on est appelé.
C'est intéressant ce que vous dites par rapport au héros de l'enfant de 30 ans. Parce que Carole, lui, il n'est pas bien dans sa peau. Carole, il a du mal à aller vers les gens. Alors lui, c'est pas un senior, il a 30 ans.
C'est-à-dire, il raconte l'histoire à la cinquantaine de quelque chose qui lui est arrivé quand il avait 36 ans.
Quand il était jeune, journaliste,
36 ans.
Sportif.
Ouais, voilà.
Mais par rapport à ce que dit Alain, lui, il est mal dans sa peau. Hein. Il a du mal à séduire les femmes. Il ne sait pas s'il plaît. Il y a un passage très beau. Alors, j'adore. Quand on lui demande s'il est beau. Mais ça, c'est extraordinaire.
Voudrait qu'on lui dise qu'il est beau.
Même. C'est un mot d'auteur. Qu'est-ce que vous dites sur... bon, évidemment, vous n'avez pas pointé. On va revoir la page. Est-ce qu'il est beau? Alors, tout le monde s'est posé la question. Je suis belle, je suis beau. Hein. Et lui, il se trouve laid. Des femmes le trouvent beau. Ça m'a fait penser à la chanson de Lama. Elles m'ont même trouvé beau. Mais c'est vraiment.
Qu'on ne lui dit pas assez qu'il est beau. Parce que c'est toujours, les femmes attendent qu'on leur dise qu'elles sont belles. Donc il le dit, mais il a rien en retour. Et il est très frustré parce qu'il a l'impression d'être. Il est très en insécurité par rapport à son physique.
Ceci dit, André, quand même, tout le roman, c'est que les histoires d'amour de Carole.
Oui.
Donc tout le roman.
L'histoire, une histoire d'amour en l'occurrence. La principale.
Il y a beaucoup de femmes.
Ah bah oui.
Il n'y en a pas qu'une.
Il n'y a pas que des femmes d'ailleurs.
Oui, il n'y a pas que des femmes. Parce que, voilà, alors il faut le dire aux... On permet, on le dit. Il faut le dire aux auditeurs. Non mais parce qu'il faut pas... C'est comme pour le livre d'Alain. Je veux ni trop ni trop. Parce que je veux qu'ils achètent et qu'ils lisent vos deux livres. Parce que les deux livres sont remarquables. Il est bi. Et il se out à un moment donné. Il est bi. Hein. Son ami lui dit, allez... Non, c'est une fille qui lui dit, allez, je sais que t'es bi. Comment elle s'appelle celle qui lui dit que je sais que t'es bi? C'est Oriane, non? C'est celle d'avant, c'est comment?
Non, il le dit à Oriane, donc l'enfant de 30 ans, c'est Oriane. Il le dit à un moment donné en parlant de ses amours passés, en disant
c'est ça.
Tous ceux que j'ai aimés, il dit tous ceux, c'est-à-dire il n'y avait pas que des femmes.
Et puis il a du désir pour certains hommes, il a envie de les embrasser, leur rouler des pelles, certains ne veulent pas, d'autres, il va, parce qu'il ne veut pas s'arrêter, donc il se bloque, il s'arrête à un moment donné, mais en fait, vous écrivez que là, pour cet homme-là, il avait envie.
Oui, non, mais il est bisexuel, il aime
il
les deux,
voilà. Et alors, n'est-ce pas? Nous, on est pour la liberté, tout est formidable quand on s'y sent bien, n'est-ce pas, Alain Pénichaud?
Oui.
Et ça, c'est une question, est-ce qu'en avançant en âge, parfois, on peut changer d'orientation sexuelle, Alain Pénichaud?
Oui, je pense que, si vous voulez, il n'y a pas de tabou là-dessus, dans le sens où, plus on vieillit, peut-être qu'on est moins relié au sexe, ce qui est pas toujours vrai d'ailleurs, mais c'est vrai qu'on a d'autres besoins, on a des besoins de compagnonnage, on a des besoins de partage, et donc et je pense que la tendresse, qui est un mot parfois un peu tabou par rapport un petit peu à tout le sexe qui est proposé, est quelque chose de très important lorsque l'on vieillit, parce qu'on a besoin de cette tendresse. Alors parfois elle est donnée par les petits-enfants, elle est donnée par les enfants, mais parfois ça peut être bien que ça soit donné au sein et dans un cercle, soit d'amis, soit de compagnons, de compagnes.
Tout à fait. Hein,
donc la tendresse, je pense, est la voix qui accompagne un petit peu.
On va demander à Irène Cazenave, notre amie, excusez-moi de vous couper, Alain, hypnothérapeute, la tendresse, Irène. Est-ce que vous voyez, vous, dans votre cabinet, beaucoup de gens qui souffrent d'un manque de tendresse?
Qui souffrent d'un manque de connexion, oui, à l'autre. Et puis, il y a cette question aussi, en prenant de l'âge, c'est aussi un moment d'assumer ses désirs, d'assumer ce dont on a envie, que ce soit en termes de sexualité, d'orientation sexuelle aussi. Quelquefois, les gens ont un parcours qui est très, je dirais presque académique au départ. On se marie, on fait un enfant parce qu'il faut faire ça. Et puis, il y a un moment où le désir, le naturel revient au galop et qu'il y a d'autres choses qui peuvent émaner. Et puis après, il y a aussi nécessité fait loi. Quand on prend en âge, il y a certaines catégories d'âge ou certains endroits où, par exemple, il n'y a quasiment pas d'hommes, il n'y a que des femmes. Donc il y a des choses aussi qui peuvent se passer à ces endroits-là parce qu'il y a peu de l'autre sexe, en fait.
C'est ça. Et ce que vous voulez dire aussi, c'est qu'effectivement, l'évolution d'un individu... après, moi, c'est une vraie question, Irène. Et je pense que nos auditeurs qui sont là D'ailleurs, il y a un chapitre du livre d'Alain Pinichot là-dessus. On verra en cours de l'émission qui parle senior et vie sexuelle. Donc, c'est une vraie question. On a une croyance limitante qui pense que plus les gens avancent en âge, moins ils ont de vie sexuelle. C'est à la fois vrai et faux. Quoi.
Alors, ce qui est, complètement faux, on en parle beaucoup moins. Il y a une espèce de tabou dans notre société sur la sexualité à partir d'un certain âge, alors qu'il y a plein d'histoires d'amour dans les EHPAD en réalité.
Absolument.
Donc il y a ça. Après, oui, la sexualité va être différente, mais différente, ça ne veut pas dire moins forcément. C'est autre chose.
Alain Pénichaud, on viendra sur ce chapitre. André, la vie sexuelle quand même de Carole, il y a quand même pas mal de passages là-dessus. On va vous embrasser, Georgia. Merci d'avoir été là et d'avoir participé à l'émission. Et restez avec nous, c'est passionnant. On va
au revoir, on vous embrasse.
Restez avec nous, on va continuer à suivre l'évolution de ces deux magnifiques livres.
Les vieux ne parlent plus, ou alors seulement parfois du bout des yeux. Même riches, ils sont pauvres, ils n'ont plus d'illusions et n'ont qu'un cœur pour deux. Chez eux, ça sent le thym, le propre, la lavande et le verbe d'antan. Que l'on vive à Paris, on vit tous en province quand on vit trop longtemps. Est-ce d'avoir trop ri que leur voix se lézarde quand ils parlent d'hier? D'avoir trop pleuré que des larmes encore leur perlent aux paupières? Et s'ils tremblent un peu, est-ce de voir vieillir la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui dit je vous attends? Les vieux ne rêvent plus, leurs livres sans sommeil, leurs pianos sont fermés. Le petit chat est mort, le muscat du dimanche ne les fait plus chanter. Les vieux ne bougent plus, leurs gestes ont trop de rides, leur monde est trop petit. Du lit à la fenêtre, puis du lit au fauteuil, et puis du lit au lit. Et s'ils sortent encore, bras dessus, bras dessous, tout habillés de raides, c'est pour suivre au soleil l'enterrement d'un plus vieux, l'enterrement d'une plus laide, et le temps d'un sanglot oublié toute une heure, la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, et puis qui les attend. Les vieux ne meurent pas, ils s'endorment un jour et dorment trop longtemps. Ils se tiennent la main, ils ont peur de se perdre, ils se perdent pourtant. Et l'autre reste là, le meilleur ou le pire, le doux ou le sévère, cela n'importe pas. Celui des deux qui reste se retrouve en enfer. Vous le verrez peut-être, vous la verrez parfois en pluie et en chagrin, traverser le présent en s'excusant déjà de n'être pas plus loin, et fuir devant vous une dernière fois la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui leur dit je t'attends. qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, et puis qui nous attend.
Voilà, et on a une nouvelle radio coachée, Elisabeth.
Christophe Médici, radio coachée.
Bonjour Elisabeth.
Bonjour.
Bonjour. Alors, donc vous nous appelez pour, vous savez qu'on reçoit André Royer pour l'enfant de 30 ans. Qu'est-ce que vous aimeriez lui poser comme question ?
Alors oui, donc j'ai adoré son livre, hein, je l'ai lu en 4 soirs.
Hein, ouais.
Donc, bah écoutez, voilà, j'ai fait une question un petit peu groupée longue, comme ça il pourra peut-être trouver.
Oui.
Oh, Elisabeth, on vous entend très mal.
Vous voulez que je mette le
haut-parleur? Ah, là, on vous entend. Là, on vous entend.
Là, c'est mieux.
Non, là, on vous entend plus, Elisabeth. Vous entendez, là, il y a une seconde.
Bon, ben, je bouge.
Là, on vous entend. Qu'est-ce que vous faites comme différence?
Voilà.
Voilà.
André, comment vous est venue l'idée de ce deuxième roman, ou quelle en a été la nécessité ou l'élément déclencheur? Et puis j'aimerais savoir un peu comment vous procédez pour écrire. Donc si, je sais pas si vous pourrez répondre à toutes ces questions.
Oui,
avec
alors
plein,
ouais.
Notes, voilà, je vous laisse
je vais répéter juste la question parce qu'on vous entend pas très bien. Donc comment André vous est venue l'idée de ce deuxième roman, et puis ensuite il y avait une question mais qu'on a déjà un petit peu abordée, c'est comment vous écrivez.
Bonjour Elisabeth. Alors comment m'est venue l'idée? Déjà je pars toujours des personnages, moi, quand j'écris des romans. Je me concentre d'abord sur les personnages, c'est eux qui sont les premiers, en fait, dans mon imagination, voilà. Et là, en quelque sorte, j'ai voulu parler d'une femme-enfant, mais ayant 30 ans, donc c'est la femme-enfant du titre, cet étrange personnage qu'on ne comprend pas, parce qu'on voit de loin, vu à travers les yeux d'un personnage, d'un homme... Qui tombe amoureux d'elle. Et en fait, ces deux personnages, ben, c'est une partie de moi, les deux. Donc, c'est comme si je m'étais coupée en deux. Et que j'étais à la fois un homme handicapé et une femme enfant. C'est très curieux parce que les deux personnages sont absolument pas compatibles. D'ailleurs, je ne spoile pas, c'est écrit dès le départ, leur histoire d'amour est un échec. Mais ça m'a été à la fois extrêmement bénéfique d'écrire ça pour mon histoire personnelle et une torture impossible.
En même temps, on va tomber d'accord, André, qu'il y a toujours une dimension cathartique à l'écriture. Là, je parle surtout de l'écriture de fiction.
Oui.
Moi qui n'en ai pas écrit, mais qui écrit plutôt... Je suis un auteur. Alain disait en off, lorsqu'on déjeunait un jour ensemble, Alain Pénichaud et moi, il y a les écrivains et les auteurs. Moi, voilà, nous, on fait partie des auteurs. Vous êtes un écrivain.
Mmh.
Un écrivain, c'est écrit de la fiction. Nous, on est des auteurs. Mais parce que moi, je trouve qu'il y a beaucoup de... C'est beau, hein, partir dans de l'imagination. À un moment donné, évidemment, excusez-moi de vous le dire, mais comme disait Proust, l'imagination, ce n'est que de la mémoire transformée. Mmh. Volens, nolens, on ne peut pas écrire, même de la fiction, si on n'a pas des mémoires. On en reviendra parce qu'Alain parle des différents types de mémoires qui existent dans son livre. C'est de la mémoire transformée.
Donc, mais on part de soi, c'est
exactement.
Normal.
Exactement. Vous êtes d'accord, André?
Bah oui,
vous
sinon,
êtes d'accord.
On raconte une histoire qui ne nous appartient pas. C'est du récit, après, c'est autre
Irène
chose.
Irène Cazenave.
Oui, complètement. Il y a vraiment cette question et je vais en revenir par rapport à l'hypnose et ce dont
oui.
on parlait, où il y a cet état de conscience modifié et pour un écrivain, et notamment avec la façon dont André décrivait sa façon d'écrire, avec le vin, où il y a à la fois, où tous les sens sont en éveil, la musique, et puis se plonger dans l'écriture, qui met dans un état de conscience modifié. Et qui fait que en transe en fait. Et quand on lit, on est aussi en transe. On est happé par le livre. On est dans l'imagination.
Ah ben j'ai beaucoup aimé, oui.
Y a vraiment cette notion là et de mélange de réel et d'imagination, comme en hypnose.
Mais moi, ça m'est nécessaire d'écrire. C'est-à-dire que si j'écrivais pas, si j'avais pas cette soupape, je vivrais pas. Ou je sais pas comment je vivrais, mais. J'ai été forcée pendant une dizaine d'années à ne pas écrire.
Pourquoi ?
Parce que j'étais avec quelqu'un qui ne supportait pas de me voir écrire. Donc j'ai arrêté d'écrire pendant 10 ans.
Qui vous a interdit d'écrire ?
Oui. quelle torture.
Oui, ça arrive.
Mais c'est...
Et je me suis perdue totalement. J'étais plus moi. J'étais un fantôme. Totalement. Et
mais c'est pire que, oui, pour quelqu'un comme vous qui écrivez c'est
torture,
que vous êtes enfant
hein.
Et qui avait des livres dans votre adolescence, et vous faire ça, excusez-moi, mais c'est pas vous aimer.
Ah ben non, j'ai jamais dit ça.
C'est pas vous aimer, oui, mais vous avez, c'était avec quelqu'un avec qui vous viviez une histoire d'amour. Parce que quand j'entends « j'ai été avec quelqu'un
oui, », oui.
C'était la personne avec qui vous avez eu votre enfant.
Oui.
Oui, alors vous imaginez, André. C'est-à-dire que là, on a une grande hypnothérapeute, une des meilleures de France avec nous. Moi, je suis coach de vie, life coach. Hein, monsieur est thérapeute aussi. C'est intéressant ce que vous nous dites. C'est pas étonnant que vous soyez une grande auteure. Un grand auteur, pardonnez-moi. Un grand auteur. Mais c'est que, évidemment, vous imaginez la souffrance. Vous imaginez la souffrance. Parce que c'est une histoire d'amour.
Ben, j'ai imaginé, je l'ai vécu, donc je sais.
Oui, oui. Ce que je veux dire par là, c'est, je suis entièrement d'accord avec vous que les histoires d'amour, malheureusement, dans l'espèce humaine, d'ailleurs, on va demander son regard à Alain Pénichaud là-dessus. Moi, ce qui m'effare, chers amis auditeurs, et je me mets dedans à 1000%, parce que j'en ai vécu X des histoires d'amour, Alain, ce décalage entre le sentiment qu'éprouvent deux êtres humains l'un pour l'autre et la qualité pourrie de la relation jusqu'à se détruire, se co-détruire, s'auto-détruire, dans l'espèce humaine, animal, humain, c'est quand même quelque chose qui m'effare. Alors, c'est bien, ça remplit les cabinets de thérapeutes, mais ce décalage entre s'aimer et autant se faire de mal, mutuellement, ou personnellement, Alain Pénichaud, c'est effarant, n'est-ce pas?
Oui, bien sûr, l'illusion est grande, et c'est vrai que nous vivons des illusions, on vit des illusions les uns par rapport aux autres, et donc nous avons des attentes, et quand les attentes ne sont pas respectées, quand on ne peut pas atteindre les différentes attentes que nous portons en nous-mêmes, à travers nos besoins, mais aussi à travers notre imaginaire, et ces attentes sont extrêmement profondes, parfois, et c'est vrai que ça prend des chemins très tortueux, très labyrinthiques, qui font que différentes situations émergent. Et moi, je comprends en fait un petit peu cette espèce de piège, parce que c'est un piège qui est tendu, quand il y a illusion, il y a un piège, et c'est déjà le début d'une fiction. Finalement, ce que vivent les gens, sans savoir, ils vivent des fictions de la relation à deux.
En fait, ce que vous voulez dire, ce que j'entends à Alain Pénichaud, c'est qu'évidemment, Freud l'a bien décrit, on peut pas tomber amoureux sans, comme avait dit Flaubert dans son journal, qu'est-ce qu'il faut se monter le bourrichon pour tomber amoureux? On peut pas ne pas se monter le bourrichon. Donc construire quelque chose dans sa tête qui fait que c'est pas tout à fait l'autre dont on tombe amoureux ou amoureux, c'est la personne qu'on a construite dans sa tête. C'est le phénomène de la cristallisation de cet
amour.
La cristallisation
complètement et des projections qu'on peut avoir. Ouais. Après, il y a toute cette question aussi où qu'est-ce qu'on associe à l'amour? Qu'est-ce qu'on met dedans? Est-ce qu'il y a quelque chose de sacrificiel dedans? On a été aussi conditionné et éduqué avec une forme d'amour sacrificiel, notamment les femmes en tout cas. Il y a aussi ces histoires-là de savoir comment on peut et se réaliser et en tant qu'individu et vivre une histoire d'amour.
Et ce qui est intéressant avec Carole dans L'enfant de 30 ans, c'est bon, il y a quelques femmes dans le livre, n'est-ce pas, André? Mais alors il y a un mot qui vient dans les premiers chapitres, je suppose que ça ne vous a pas échappé parce que vous l'utilisez très souvent. Alors je suis obligé de vous poser la question, est-ce que c'est autobiographique? Mais c'est le mot procrastination. Alors celui-là, il arrive souvent dans les premiers chapitres, vous le savez, André. Il arrive souvent. Et il page 5, et puis je procrastinais à nouveau, et page 7, et page 12. C'est quoi cette histoire de procrastination?
Ah, c'est le rapport au temps. C'est oui, bien sûr que c'est un peu autobiographique. J'ai un rapport au temps un peu déformé. J'ai toujours été très lent, très lent. C'est pour ça que c'est seulement maintenant que je sors des livres alors que j'écris depuis que j'ai l'âge de 11 ans, que c'est seulement maintenant que je réalise ma vie alors que je savais qu'elle devait être de telle façon mais ça se passait pas. Enfin, j'ai un rapport au temps extrêmement lent. Donc oui, disons que je suis le roi de la procrastination. Si je peux faire durer, je fais durer. Jusqu'à ce qu'il y ait un point de rupture qui fait que tout d'un coup, tout va s'accélérer et ça va aller à toute allure.
Alain Pénichaud, le rapport au temps, la relation qu'a un être humain au temps est-elle variable? On suppose votre réponse, mais en tant qu'expert vraiment des seniors, elle va être vraiment géniale. Je le sais, je connais votre profondeur. Un senior n'a pas forcément le même rapport au temps que quelqu'un de 40 ou quelqu'un de 20 ans. Alain Pénichaud.
Alors, c'est vrai que c'est une notion fondamentale. Plus on vieillit, plus effectivement on est soumis à un petit peu à cette loi et du temps. Et soit on est victime du temps, hein, le temps chronos, que c'est ce rapport un petit peu de ce temps qui nous dévore, ou bien on maîtrise le temps. Et comme cette fameuse phrase, on met du temps, mettre du temps dans le temps, ça va être vraiment de pouvoir maîtriser ce temps et pouvoir, je dirais en même temps, maîtriser un petit peu certains processus vitaux au niveau de soi-même, au niveau de ses pulsions, au niveau de ses envies, enfin, voilà. Et je comprends très très bien ce rapport au temps qui est compliqué, parce que plus on vieillit, plus en fait on veut échapper à ce temps, parce qu'on a l'impression que le temps nous échappe et on se dit maintenant il nous reste très peu de temps. et finalement, la seule issue, enfin moi je la considère un petit peu comme une issue, c'est d'arriver à mettre du temps dans le temps, c'est-à-dire à pouvoir remettre cette dimension fondamentale de l'humain dans toute sa verticalité par rapport à ce qui se déroule dans la vie.
Comment ça vous parle tout ça, chère auditrice?
Moi?
Oui, ça vous parle comment ce que nos deux auteurs sont en train de dire?
Ben écoutez, surtout...
Remettez-vous comme vous étiez tout à l'heure, qu'on vous entende bien.
Oui, le rapport à la fiction dans l'état amoureux, c'est cela. C'est-à-dire qu'on ne cesse de construire à longueur de vie en dehors de l'état amoureux.
On vous entend mal. Tout à l'heure, on vous entendait bien.
Alors, je m'approche complètement.
Voilà, on vous entend bien.
On ne cesse de construire pendant toute sa vie des fictions. On se raconte, on se projette. On est obligé de ça. On peut pas rester collé sur le factuel absolument. Sinon, on n'avancerait absolument pas. C'est un système de désir. Donc, la création de fiction, elle existe grandement dans l'état amoureux. Effectivement, après, il y a une mise au point qui peut se faire avec la durée de la relation, etc. Mais souvent, la mise au point ne passe pas, ça casse, ça détruit. La déception, la frustration de ne pas avoir eu ce que l'on croyait avoir en l'autre, et en soi d'ailleurs, crée ce désordre qui fait que deux personnes se déchirent.
C'est une vraie question, Elisabeth. Moi, je me rappelle quand j'étais en doctorat de psychosociologie, j'avais un de mes grands maîtres, paix à son âme, Jacques Ardoineau, spécialiste du psychodrame, qui disait toujours, de toutes les maladies, la seule pathologie aimable qu'a l'être humain, c'est l'amour. Parce que l'amour, c'est une maladie. Et d'ailleurs, Michel Sardou, qui a fini sa carrière, la disait, elle court, la maladie d'amour de 7, il dit à 77 ans, mais on pourrait dire à 97 ans ou à 107 ans. C'est une maladie, l'amour. On tombe amoureux comme on tombe malade. Et il faut jamais oublier ça, parce que il y a quelque chose qui volince nos linces. Quand deux êtres humains tombent amoureux l'un de l'autre, ce n'est pas que son cul, ses seins, son visage. On tombe amoureux de nos blessures d'enfance. C'est deux enfants intérieurs qui se font écho. C'est des blessures identiques. C'est de l'abandonnisme d'un côté ou alors de la trahison de l'autre. Mais le problème, et là on a une grande hypnothérapeute avec nous, le problème bien souvent, c'est que comme il y a très peu de gens qui font un travail sur eux et que l'amour, Dixit, moi qui ai écrit tellement de livres sur les relations amoureuses, que l'amour c'est l'autre à bout portant, hein, un peu comme si on est à bout portant d'une arme, eh bien si tu n'as fait aucun travail sur toi, ça va se repositionner là, n'est-ce pas Irène Cazenave, vous allez nous éclairer là-dessus, dans la relation privée, Irène Cazenave.
Complètement, il y a tous les enjeux qui de non métabolisés, d'attachement, etc., qui réapparaissent dans une relation et où... Effectivement, le plus proche, ça va être la première victime de peur, la première victime de choses qu'on n'a pas comprises, qu'on n'a pas guéri. Oui.
Et l'autre va devenir le thérapeute sauvage et le punching ball.
Plus le punching ball que le thérapeute. D'ailleurs. Sachant qu'après, on rentre vite dans le triangle de Carpane où si l'un essaye de sauver l'autre, il va devenir soit bourreau, soit victime, et puis ça tourne entre bourreau, exact. Victime et sauveteur. Donc il y a cette notion-là. Le couple, ça fait aussi revivre toutes nos blessures d'enfance.
Exactement.
Comment on a été aimé ou mal aimé par nos parents au départ. Donc à partir du moment où il y a des carences, et il y a forcément des carences parce qu'on est humain, il y en a plus ou moins chez certains individus, ça se rejoue dans le couple, fatalement.
Vous entendez bien tout cela, n'est-ce pas Elisabeth, hein?
Oui, et je l'entends encore plus largement parce que je dirais que, dans un sens voilà, très simplifié, une rencontre amoureuse, c'est une renaissance. C'est-à-dire, on repart quasiment à zéro. Je
pense à mon expérience forte.
Oui.
Donc, à chaque fois, on est une autre personne. Il se passe chimiquement quelque chose aussi, pas seulement mentalement. Chimiquement, ça traverse, il se passe quelque chose.
On bien a sûr, c'est de... vrai. D'ailleurs, il y avait un magnifique livre de Tara Benjelloun qui disait le plus bel amour, c'est toujours le dernier. Et vous avez tout à fait raison de dire ça, d'autant plus qu'une relation est toujours unique. On est toujours co-auteur et co-scénariste. Et d'autant plus une relation amoureuse. Mais volins, nolins. Je vais vous citer une phrase magnifique de Bachelard qui disait « L'éducation de la vie déprave les êtres légers mais perfectionne ceux qui réfléchissent. » Le vrai problème, c'est ce que soulevait Irène Cazenave, et je vous assure que c'est une grande hypnothérapeute, et moi je suis coach, j'écris 20 livres sur ces questions-là, vous êtes avec une des meilleures émissions de développement personnel de France, là, et nous sommes heureux que vous y participez, toute notre gratitude. Le problème, c'est si c'était... Et réfléchissez bien, chers amis auditeurs, à cette phrase de Bachelard. Qu'est-ce que dit Bachelard ? Gaston Bachelard, immense homme du XXe siècle. Il dit bien qu'il y a des hommes qui tirent une leçon de leurs histoires d'amour. Mais d'autres pas. D'autres vont être dans la répétition et ça va pas leur servir de leçon. Et jusqu'à ce qu'à un moment donné, la vie, elle rigole plus, chers amis auditeurs. Une fois, elle te fait avoir une petite maladie psychosomatique. T'as pas compris, t'as pas réfléchi, t'as pas fait quelque chose de cette expérience. La fois d'après, Alain Le Sétermière, ça va être une fracture. T'as pas compris, t'as pas réfléchi, t'as pas changé. Fais gaffe à la fois des prêts, n'est-ce pas, Irène Cazenave? Ça peut devenir de plus en plus. L'addition va être de plus en plus corsée. Irène Cazenave.
Complètement. L'inconscient, à un moment qui se manifeste par le corps, va envoyer des signaux de plus en plus forts. Quand il y a... Oui, l'addition, à un moment, effectivement, elle se paye par le biais de l'inconscient. Parce que quand on répète des schémas, à un moment, on les répète de plus en plus fort pour comprendre. Après, l'idée, c'est de se dire qu'on est aussi sur Terre pour comprendre des choses, pour évoluer, pour avancer. Donc, les choses se repassent et se reproduisent aussi pour qu'à un moment, on agisse différemment. C'est vraiment cette question de pouvoir agir différemment à un certain moment. Et de partir aussi... J'aime bien cette idée que chaque rencontre est une renaissance.
Que disait Elisabeth.
Ouais, j'aime beaucoup cette idée d'Elisabeth. Chaque rencontre est une renaissance parce que souvent on pourrait aussi calquer des choses sur le partenaire, ses projections, de dire voilà, j'ai vécu ça avant, les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça, etc. Calquer des choses, alors que de prendre, je vais employer un terme de gestalt, une page blanche dans une nouvelle relation et de se dire qu'est-ce qui se passe là dans l'ici et maintenant dans cette relation. En renaissance, ça peut être effectivement intéressant.
Merci beaucoup de ces éclairages, Irène Cazenave. On va vous embrasser, Elisabeth. Merci d'avoir participé à l'émission. Vous pourrez réécouter à midi, samedi, l'émission et la faire écouter à beaucoup de monde. Et au plaisir. On peut vous demander ce que vous faites comme métier parce que vous êtes très lucide et très profonde.
J'écris aussi et j'ai vécu.
Vous écrivez, vous avez déjà édité des livres ?
Bien sûr, je suis
fou. Bon, laissez à la réalisation, au technicien de la réalisation, vos coordonnées. On va vous inviter à participer à l'émission un jour. Ça vous plaît ? D'accord ?
Oui.
Eh bien, écoutez, vous laissez à la réal, on vous embrasse. Ils vont prendre vos coordonnées, d'accord ? Au revoir, Elisabeth.
Au revoir.
Prends les temps.
J'aime les filles de chez Castel, j'aime les filles de chez Régine, j'aime les filles qu'on voit dans elles, j'aime les filles des magazines, j'aime les filles de chez Renault, j'aime les filles de chez Citroën. J'aime les filles de l'autre, j'aime les filles sans papa, j'aime les filles de Megève, j'aime les filles de Saint-Tropez. J'aime les filles qui font la grève, j'aime les filles qui vont camper. j'aime les filles camarades, j'aime les filles intellectuelles, j'aime les filles qui me font marrer, j'aime les filles qui font vieille France, j'aime les filles du cinéma, j'aime les filles de l'assistance, j'aime les filles dans l'embarras.
Si vous êtes comme ça, téléphonez-moi. Si vous êtes comme ci, téléphonez-moi.
Si vous êtes comme ça,
le grand Jacques, le grand Dutronc, voilà un homme qui vieillit bien en Corse. Voilà. Chers amis, on est toujours avec Irène Cazena, avec Christophe Médicis dans cette formidable émission Pour vivre heureux, Yvon Cotchet, 9e année Irène, depuis 2015. Et nous avons l'immense chance d'avoir deux grands auteurs avec nous. On a Alain Pénichaud, L'art de vieillir, n'est-ce pas, aux éditions La Nord, que je connais bien, puisque
vieillir un art de vivre.
Vieillir, et c'est très précisément vieillir un art de vivre. Et André Royer, l'enfant de 30 ans. Alors, un art de vivre, justement, l'art de bien vieillir, n'est-ce pas ? Si vous aviez 5 ingrédients à donner aux auditeurs de Pour vivre heureux, Yvon Cotchet, les plus seniors d'entre nous, pour qui, que ce soit un bon art de vivre, vous leur donneriez quoi comme ingrédient ? Alain Pénichaud.
Alors, écoutez, c'est difficile comme question, parce que vous savez, on est tous inégaux face au,
et différents.
Au vieillissement. Mmh. Donc, effectivement, donc, les éléments, bon, on le sait maintenant, tout le monde en parle actuellement, il y a vraiment une mode, mais c'est vrai que la nutrition va être vraiment essentielle pour accompagner cette notion du bien vieillir, savoir ce que l'on mange, comment on mange, l'eau, enfin tout ça est extrêmement important, et actuellement on est c'est tellement pointu au niveau des recherches que on se rend compte que sur la santé il y a des effets qui sont formidables et qui peuvent être mis en place d'une façon très simple. Et puis ensuite, je pense qu'il y a vraiment la façon de créer de l'humour dans sa vie.
Ah oui,
c'est-à-dire
de la joie et de l'humour.
De la joie et de l'humour, savoir s'alléger. Plus on vieillit, plus on s'allège, on vide les placards, on vide les pièces, on se débarrasse. Et donc, ce qui est vraiment très important pour les gens qui ne l'ont pas fait encore, c'est vraiment de se détacher. Le détachement, comme disait un maître du XIIIe siècle, il plaçait le détachement au-dessus de l'amour. Hein. Et donc, le détachement, ça va être voilà, de passer...
C'est le non-attachement. Tout...
C'est le non-attachement des hindous de l'Inde, mais ça va être une façon de se libérer de tout ce qui nous attache, c'est-à-dire on fait tous les postes dans la maison, et tous ces poisons administratifs qui nous engagent, et on essaie d'alléger un peu tout ça.
Alain, c'est très fort tout ça, ça donne une idée, mais quand on est dans les limbes à 30 ans, comme le héros Carole, lui, il n'est pas senior comme ça. Et il y a un passage, page 55, qui est très beau. Parce que bon, il est tourmenté quand même, ce Carole. Hein. On va pas se cacher, c'est un éditeur. Mais je crois qu'on me dit si joliment le philosophe, les vies heureuses n'intéressent personne. Les gens heureux n'ont pas d'histoire.
Fait,
c'est
ça qui
est terrible. Donc, si on écrit un roman sur des gens heureux, on n'a rien à dire.
Absolument. Donc, voilà. Parce qu'ils gardent le silence.
Vous êtes d'accord, Alain Pénichaud.
Ah bah, ils gardent le silence.
C'est les gens tourmentés, torsadés, qui vivent des histoires terribles, avec une vie en montagne russe, qui sont les gens les plus intéressants. Et alors, écoutez bien le style quand même d'André Royer. Moi, j'étais quoi ? Moi, en tout cas, j'étais pas ça. Moi, j'étais l'albatros, le prince des nuées, moi. Moi, j'avais des rêves trop grands pour moi, des rêves comme des ailes, mazoutés. Mais je restais immense. C'est beau. Bravo, franchement, bravo. Qu'est-ce qui lui arrive pour qu'il dise ça, notre chère Carole ?
Ah bah je pense que c'est un peu le drame de toutes les personnes qui ont un fort tempérament artistique, quel qu'il soit d'ailleurs, que ce soit l'écriture ou autre chose, et qui ne savent pas quoi en faire, ni comment se libérer de cette bénédiction-malédiction. il y a une hypersensibilité qui dont parlait très bien Baudelaire avec l'albatros qui est ici cité, c'est-à-dire que l'albatros sur le pont est trop grand, ses ailes de géant l'empêchent de marcher, il n'arrive pas à marcher comme les autres, il vole, il est magnifique, mais quand il est sur le pont d'un bateau, il ne sait plus rien faire. Et les artistes, c'est ça, c'est cette métaphore est là-dessus, c'est-à-dire que je pense que dans la vie de tous les jours, on est un peu nul. Mais dans la vie rêvée, qu'est-ce qu'on peut voler, quoi? Et lui, c'est ça, c'est ce personnage se sent de cette façon-là. Mais c'est à la fois une bénédiction et une malédiction, disais-je, parce que ça l'empêche d'aimer sans se mettre des nœuds au cerveau. Ça l'empêche de vivre sans se poser trop, sans se poser des questions. Enfin, il arrive pas à s'intégrer totalement.
Ce qui est vraiment profond dans ce que vous dites, et tous les deux, et là on va avoir le retour de la clinicienne, est-ce que finalement tout le monde, on reprend Freud, un moi, une vie quotidienne, et puis un idéal du moi, et puis une vie rêvée, dont parle si joliment André, et puis finalement les gens font commerce entre leur vie telle qu'elle est, et tu la voyais pas comme ça, ta vie, tu la voyais pas comme ça, frérot, le baguette de Landby. Ouais, Irène Cazenave, hein, cette chanson de Souchon qui est si terrible. Irène Cazenave.
Complètement, il y a cette question aussi d'avoir, d'imaginer que nos rêves sont trop grands. Il y a aussi ça, c'est qu'à un moment...
Ne pas les mériter, vous voulez dire
Oui, quelque chose de l'ordre de... c'est vraiment un regard clinique, mais... qu'est-ce qui se passe pour qu'à un moment on se dise nos rêves sont mes rêves sont trop grands? Après, il y a des choses qui sont effectivement possibles et pas possibles. Un albatros, il peut voler. Et il y a d'ailleurs en thérapie ou en psychologie, on parle du complexe de l'albatros pour des gens qui sont notamment haut potentiel ou hypersensibles et qui replient leurs ailes pour faire comme tout le monde. Et puis après, ils se disent, j'arrive plus à voler. Ben oui, forcément, parce qu'en fait, t'as des plus grandes ailes que les autres.
C'est intéressant parce que j'avais une amie comme ça, je m'excuse de vous couper, mais ça me rappelle une discussion d'hier soir. Tu as des gens qui disent qu'ils sont des HP, qui sont dans des institutions privées comme publiques, et les gens se rendent compte qu'ils sont très très doués. Et effectivement, ils se rétrécissent parce qu'ils sentent qu'ils dérangent les autres.
Pour faire comme tout le monde. Voilà. Ouais, voilà. Pour faire comme tout le monde, parce qu'on a aussi un instinct grégaire, on est des êtres pleins d'ambivalence.
Ouais, ouais.
Donc il y a cette notion-là, et puis une fois que les ailes sont repliées, c'est... mais elles sont trop petites et j'arrive
et
pas
là, on
à
se
voler
sent mal.
Et donc c'est d'accueillir quelle que soit la taille de nos ailes aussi, de se dire ok, j'ai ces ailes là et déjà d'être dans l'accueil de ce qu'on est. Et les rencontres, quelquefois elles nous aident à nous accueillir tel qu'on est, et quelquefois on tombe, alors j'ai envie de dire inconsciemment, c'est sur des gens qui ne vont pas nous accueillir comme on est, donc on va aussi nourrir ce non-accueil de soi.
C'est ça, on passe une page musicale, on va continuer avec nos deux formidables auteurs. Vous pouvez nous appeler, ils sont là pour vous répondre.
Ce geste se fasse sous la table quand elle sort seule, quand elle n'a rien à perdre. Après les mains, la peau de tout le reste. Un amour qui est secret. Alors sous
Vous avez toutes et tous reconnu Mécano, quel groupe extraordinaire espagnol, une femme avec une femme. Vous êtes très nombreux à poser des questions. On a un nouveau Radio Coaché.
Christophe Médici, Radio Coaché.
Bonjour Eddy.
Bonjour monsieur.
Nous sommes ravis de vous accueillir sur les ondes de Dynamique Radio dans Pour vivre heureux, vivons coaché. Vous savez que nos deux invités sont, donc vous connaissez plutôt vous évidemment, Alain Pénichaud, mais il y a aussi le romancier André Royer. Quelle question avez-vous envie de poser à Alain Pénichaud?
La question que je voulais poser, il y a deux questions que je voulais poser sur le yoga du visage. Je voudrais savoir quels sont les bienfaits du yoga du visage sur le corps et l'esprit. Et la deuxième question, c'est pourquoi le choix du livre Beauté absolue.
Alain Pénichaud.
Oui, alors là, il parle en fait effectivement du dernier livre qui vient juste de sortir.
Là, on est un peu hors cadre.
C'est un petit peu hors cadre, mais ça marche aussi dans la démarche du bien vieillir, c'est-à-dire depuis 20 ans, j'ai créé un petit peu donc un peu cette méthode, même si elle existait déjà en France, elle m'a été transmise dans les années 90, et ça va être une méthode d'accompagnement pour aller, je dirais, pour s'accompagner tout le restant de sa vie. Car toute cette relation entre les doigts, la peau, va permettre de comprendre à quel point, jusqu'au bout, c'est une façon de s'aimer encore. Et donc, c'est une relation d'amour que l'on crée à travers un rituel beauté, à travers des ancrages qui vont faire que ce yoga du visage, à travers les points énergétiques, les mobilisations musculaires, les automassages, vont faire qu'on va s'accompagner jusqu'à la fin. Et je trouve que c'est une très très belle démarche pour accompagner les seniors, mais j'ai formé des esthéticiennes qui accompagnaient des gens qui avaient du quatrième âge, et je trouvais ça très très beau, très très beau.
C'est très intéressant, parce que vraiment là encore, merci Edith cette question, il y a encore une oscillation et un pont entre le magnifique livre d'Alain Pénichaud et le magnifique roman d'André Royer, parce que il y a beaucoup, le terme vous l'employez, ou je ne sais pas si c'est moi qui l'ai employé en créant cette question que je voulais vous poser au cours de cette émission. Il y a une oscillation dans votre roman entre la laideur et la beauté, la laideur et la beauté, l'enlaidissement et l'embellissement, donc aussi votre méthode, Alain. Et je crois que volins nolins, quand on parle de prendre de l'âge, il y a aussi toujours cette oscillation entre l'enlaidissement et l'embellissement.
Et la peur.
Et la peur de ça, ou l'enlaidissement ou l'embellissement. On voit très bien, n'est-ce pas, Irène Casdin, quand une femme a été très, 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 très belle, n'est-ce pas, et qu'elle, avec l'âge, elle prend de l'âge, et si elle avait énormément introjecté son narcissisme uniquement sur son physique, je pense, alors, celle pour qui ça a été paroxystique, c'était évidemment Simone Signoret. Simone Signoret, quand vous voyez Simone Signoret, quand elle joue Casque d'or, elle fait partie des femmes les plus belles au monde. Bon, et quand Simone Signoret joue le chat, avec tout ce qu'elle a subi et ce qu'elle est devenue. Mais je voudrais vous poser une question, à vous. Et après, Alain répondra aussi sur l'oscillation chez Carole. Carole, il se demande toujours, hein, suis-je beau? Non, je suis laid, je suis handicapé. Comment puis-je plaire aux femmes?
C'est assez terrible, parce que notre enveloppe corporelle est ce qu'on renvoie au monde, et d'elle dépend la façon dont les personnes interagissent avec nous. Alors qu'en fait, ce qu'on a à l'intérieur, ça n'a aucun rapport. C'est le problème du vieillissement aussi dont on parle dans cette émission, c'est-à-dire que certaines personnes âgées, si c'est pas toutes, sont très différentes à l'intérieur et à l'extérieur. C'est pas parce que la peau est relâchée ou les cheveux sont blancs ou je ne sais quoi, qu'on n'est pas la même personne et qu'on n'est pas profondément identique ou jeune à l'intérieur. Tout le problème de ce qu'on renvoie et ce qu'on est un problème qui m'est aussi personnel dans mon histoire personnelle, etc., qui importe énormément, qui m'a posé beaucoup de problèmes, qui m'en pose encore, etc. Donc ça en pose à Carole, parce que il est handicapé. Ce qui renvoie aux autres, c'est quelqu'un d'handicapé, alors que il y a rien à voir avec ça. Pour lui, c'est pas, il a autre chose à dire que ce qu'on en perçoit.
Il est handicapé, mais il séduit énormément.
Il séduit énormément.
Il est handicapé, mais il y a plein de filles qui craquent pour lui.
Oui.
À Wimbledon, il y a une fille qui craque pour lui. Sur les grands, parce qu'il faut dire aux auditeurs que c'est un journaliste sportif qui interview les grands, à Wimbledon, Federer, Nadal, Bartoli, mais il fait aussi les JO, enfin.
Mais on soupçonne qu'il est plutôt beau garçon, mais qu'il sent, en fait, il en a pas plus ou moins conscience, en tout cas, il a du mal.
Oui, il oscille dans cette peur. Hélène Cazenave, beau, laid, belle, laide, c'est dans la tête tout ça, comme dirait Albin de la Simone.
C'est beaucoup, beaucoup dans la tête. C'est aussi beaucoup, je pense notamment au personnage de Carole, où il y a ces conditionnements où on dit beaucoup aux femmes qu'elles sont belles et on ne le dit pas aux hommes. Donc il y a cette question-là aussi de ce que nous renvoient les autres. Et souvent, il y a un décalage d'ailleurs entre ce qu'on ressent et ce que les autres perçoivent. Alors c'est plutôt des gens qui vont se sentir laids alors que pas du tout, ou c'est pas ce qui est perçu de l'extérieur. Il y a cette question de correspondre ou non à des normes. Il y a aussi des modes aussi dans les physiques et dans les normes.
On pourrait demander, Irène, si vous voulez bien, à Alain qui accompagne des groupes. Vous n'avez pas fini peut-être.
Et souvent aussi, on ressemble à nos parents et nos ancêtres, et il y a derrière notre physique des stigmates et en tout cas des traits qui appartiennent à des gens qui nous ont envoyé de l'amour ou pas. Et donc, on peut trouver l'aide des parties de notre visage ou de notre physique puisque ça nous renvoie du désamour.
C'est intéressant, Alain. Je voulais savoir, dans les groupes que vous accompagnez, est-ce qu'il y a souvent des questionnements sur l'enlaidissement
Bien sûr, parce que je pense que tout vient d'être évoqué, je dirais, à travers ce rapport intrinsèque qu'on entretient effectivement dans qu'est-ce que c'est l'acceptation. Et en fait, l'acceptation, ça va être, je pense que c'est la mesure d'accompagnement, et ça, c'est pas quelque chose d'intellectuel, mais ça va être qu'est-ce que je fais pour m'accompagner. Et là, il faut s'aimer. Et très souvent, même des femmes très belles peuvent ne pas s'aimer. Moi, j'ai vu le cas d'une cliente comme ça qui était un mannequin et donc qui venait d'Ukraine d'ailleurs, et qui s'est occupée de ses 10 frères et sœurs, parce qu'elle était dans une famille, c'était une classe moyenne, donc les parents travaillaient, et cette jeune femme en fait est repérée à 15 ans par un photographe de mode. Elle arrive en France, et avant de faire des voyages un peu partout dans le monde, et cette jeune femme ne sait pas si elle est belle, mais tout le monde la regarde comme une beauté. Et ça a été un dilemme chez elle. Tout a oscillé, mais elle est devenue une bombe atomique pour elle.
Mais Alain, ce qu'on pourrait dire, c'est magnifique votre métaphore de cette femme ukrainienne. Mais souvent, Irène fait référence parfois à une magnifique phrase de Camus, mais on est souvent quand même beau aussi dans le regard de l'autre.
Absolument, et on est
beau.
Oscar Wilde,
oui, voilà, on est beau dans le regard de l'autre. Alors là, je mettrai un bémol. On est beau, mais pas dans le regard de n'importe quel autre. On n'est pas belle et beau dans le regard de tous les autres. On est beau dans le regard à travers des gens qui nous regardent d'une manière juste. Parce qu'on sent, tu vois, on regarde des autres sur nous. Il y a des gens qui nous regardent, qui se trompent complètement sur nous. Et en plus, d'autres qui peuvent avoir un regard toxique sur nous. Et d'autres qui peuvent nous rendre beaux.
Oui, belles. Mais la justesse, comment elle est évaluée? Et donc là, je termine
c'est
avec
une
ce mannequin.
Sensation, ouais.
Justement, quand on prenait le bus avec elle, cette fille qui mesurait 1m80, qui était superbe, et tous ces gens qui la regardaient, et pour elle, c'était insupportable parce qu'elle se sentait laide à l'intérieur, parce que elle avait été la femme de ménage chez elle. Et donc, elle n'avait pas construit son image d'adulte. Et là, ce que vous venez de dire, un jour, moi, j'ai fait un arrêt tabac, justement, parce que j'avais fait une formation en hypnose. Et j'avais une femme qui est venue, qui avait 60 ans, et elle disait, mon mari me dit que je suis belle chaque jour. Et cette femme qui avait pris du poids et qui avait un problème asthmatique, elle voulait absolument arrêter de fumer. Et je lui avais donné cette métaphore de l'oiseau avec le pétrole, et je lui disais, il faut l'installer sur son épaule. Et à chaque fois qu'une cigarette arrive, vous communiquerez avec cet oiseau de façon à pouvoir vous envoler, sinon vous serez mazouté. Pour ça que l'image tout à l'heure qu'on a évoquée.
André, c'était beau.
Absolument.
Et d'ailleurs, André, chapitre 30, j'adore, je vais vous citer encore, j'aime beaucoup votre style, hein, donc vraiment, lisez les deux livres qu'on vous propose, chers amis auditeurs. Début du chapitre 30, ça fait écho avec ce dont nous sommes en train de parler en cette fin d'émission. Vous le croyez vraiment quand on vous dit qu'on vous aime, je vous aime? Est-ce qu'on le dit quand on le pense ou est-ce qu'on teste la réaction de l'autre à ces mots bien trop gros? Je t'aime, c'est une comédie. André, pourquoi pense-t-il ça, Carole?
C'est compliqué, l'amour. Comment savoir si on est réellement amoureux? Comment savoir si c'est parce qu'on a envie d'aimer et que la personne, ce que nous renvoie une certaine personne à un certain moment est suffisant pour entamer une histoire? Ou est-ce qu'on est profondément amoureux et que on peut pas, l'autre est inévitable? Je cherche encore, j'ai pas trouvé. donc c'est les questions qui se posent, parce que à quoi ça tient le sentiment amoureux provoqué et le sentiment amoureux incontournable, je sais pas.
Indéfinissable. Peut-être que comme on arrive en fin d'émission, on a envie de vous dire à tous les deux, d'abord, vous êtes toujours là, Eddie?
Oui, je suis toujours là.
Comment
bonjour,
ça
oui.
fait écho ce que nos deux auteurs sont en train de développer avec nous, là, sur le plateau?
Comment ça fait écho?
En vous?
Oui, comment ça fait écho en moi? C'est que c'est intéressant. Comment les deux, les deux conjuguent l'approche de la beauté. En fait, ce que ça fait avec moi, c'est cette articulation permanente entre l'intérieur et l'extérieur, et comment justement mieux s'accompagner à la fois en s'écoutant et en écoutant l'autre, pour que il y ait une espèce de dialogue permanent entre l'intérieur et l'extérieur. Et la beauté aussi, elle réside dans cette élégance d'être et de faire, et être dans cette voie élégante, la voie de la voix, la voie V-O-I-E.
Ouais. Ce qui est beau dans ce que vous dites, c'est ce jeu effectivement entre l'intérieur et l'extérieur. Pour autant, ouais. il est vrai que, alors moi je suis un spécialiste des relations et des personnes toxiques. On peut pas faire l'économie que tout au long de notre vie, on aura des choix relationnels à faire, chers amis auditeurs. Et ça, je vous le dis, il y a des gens qui vont plutôt vous faire croire, et je dis bien vouloir vous faire croire, je suis d'accord avec Alain. En tout cas, ils veulent quand même vous le faire croire, que vous êtes laide, que vous êtes laid, que c'est pas beau ce que vous faites, et qu'ils vont prendre votre estime de vous et la déchirer. Et je crois que André nous a parlé de choses à qui ça parle, et Alain aussi, je pense que ça parle à tout le monde ce que je dis. Et d'autres, au contraire, vont vouloir vous faire croire, mais c'est peut-être mieux à croire, que vous êtes belle, que vous êtes beau. Et moi, je passe mon temps à dire à mes stagiaires, vous êtes des merveilles et vous l'ignorez. Et même en conférence, quand j'en passe aux gens cette phrase, Irène est souvent venue me voir, je peux vous dire que ça fait une vibration.
Oui, c'est vrai.
Les messages qu'on envoie, Irène Cazenave.
Complètement, et je vais en profiter pour dire cette magnifique phrase de Camus. La vérité, ce sont les choses gentilles que me disent les gens qui m'aiment.
J'adore cette phrase. Merci de l'avoir dit, Irène. C'est tellement beau. C'est tellement
ça, j'adore,
beau.
Ça, j'adore.
Faites écho tous les deux à cette phrase. Vous l'adorez, André?
Ah oui.
Alain. Magnifique.
C'est magnifique,
ouais, c'est magnifique.
Cette idée de la vérité, c'est cette beauté.
Ce sont les choses gentilles que me disent les gens qui m'aiment.
Et ça, je le pense. Merci, Eddie. On va vous remercier. On vous embrasse.
J'ai une citation à dire de Stendhal.
Allez-y.
Il disait qu'est-ce que c'est la beauté? C'est une aptitude à se donner du plaisir.
Ah, bah c'est magnifique. Merci, Eddie. On vous embrasse.
Merci. Réécoutez
l'émission samedi à 12h sur Dynamic Radio.
D'accord. Merci. Au revoir.
Il est temps maintenant de conclure. Avec nos deux magnifiques auteurs. Merci en tout cas, toutes nos gratitudes d'avoir été aussi éclairants, aussi passionnants, et l'un et l'autre. Alain, on a envie de vous retrouver dans 10 ans.
Alors écoutez, le yoga du visage, qui font partie de ces techniques d'accompagnement pour le bien vieillir, donc
qui vont au-delà de
www.yogaduvisage.com, et puis simplement en tapant mon nom sur internet, Alain Pénichaud, P-E-N-I-C-H-O-T. Et donc, j'organise des stages, il y a des conférences et puis des signatures de livres aussi, hein,
oui,
qui se font en librairie.
Vous avez déjà écrit combien de livres, Alain? 20, 30?
Non, un peu moins que vous, Christophe. Vous êtes beaucoup plus prolixe que moi.
Mon Dieu, vous avez écrit quand même beaucoup de livres, votre œuvre est magistrale et c'est vrai que aller faire un stage du yoga du visage avec Alain Pénichaud, vous verrez, vous en tirez que des bienfaits à tous les niveaux. Vous reviendrez pour parler de la beauté absolue.
Tout à fait.
Hein, qui vient de sortir, on l'a.
Il vient de sortir cette semaine.
Il vient de sortir, c'est un bébé à la mamelle et vraiment, on a vraiment envie de voir ça. André, vraiment, Royer, un nouveau grand romancier est né. Et je pèse mes mots. Je pense que allez nous offrir beaucoup de prochains romans qui seront tout aussi et peut-être aussi encore plus forts.
En tout cas, je n'arrêterai pas d'écrire.
Mais
je n'arrêterai plus.
Vous savez, on sent vraiment que vous savez ce qu'on disait à Beckett quand on lui demandait pourquoi vous écrivez et Beckett répondait en un seul mot, bon cassard.
Ah, mais c'est tout à fait bon ça. Cassard. C'est tout à fait mon cas. J'ai essayé de faire autre chose, mais c'est pas concluant du tout. Donc oui, voilà, ça c'est le deuxième en théorie je dis en théorie puisque dans les faits j'en ai une trentaine de manuscrits et qui est sorti donc chez L'Orpailleur, les éditions de Christophe Aveau.
Et donc on le trouve chez L'Orpailleur.
Formidable éditeur, donc sur le site des éditions L'Orpailleur ou en librairie en commandant L'Enfant de 30 ans, voilà.
L'Enfant de 30 ans. Et en conclusion pour tous les deux, c'est amusant puisqu'on a fait vraiment quand même une émission sur l'âge. Merci Irène Cazenave de vos formidables éclairages. Tout le monde sait qu'Irène est formidable, n'est-ce pas?
Je rappelle quand même le titre du livre chez Lanor.
Oui, comment il s'appelle chez Lanor?
Vieillir, un art de vivre.
Vieillir, un art de vivre.
Voilà, chez Lanor.
Et on va finir en conclusion par la phrase de Lewis Carroll qui est citée en exergue. S'il vous plaît, cessez de grandir. Si c'est en votre pouvoir, Lewis Carroll dans Alice au Pays des Merveilles. Irène, peut-être que vous avez un dernier mot.
Après Lewis Carroll, cessez de grandir, c'est en votre pouvoir. Je pense que vieillir, c'est grandir, mais il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte.
Sans être adulte, c'est ça.
Donc il y a aussi ça, être adulte peut-être.
Et ça, c'est Brel, très cher.
C'est Brel, tout
ça,
à fait.
Ça, c'est
oui.
Brel. Et ça, c'est ce que disait Alain, l'humour, c'est ce que dit le roman aussi magnifique d'André. C'est-à-dire que c'est ça l'idée, c'est garder ce puer eternus dont parlait Jung, cet enfant éternel, n'est-ce pas Alain, à 77, à 87, à 97 ans. Pour cela, il y a une chose en vous, chers amis auditeurs, qui, à mon avis, on va tous être d'accord autour sur ce plateau, qui ne vieillit jamais, quel que soit l'âge, qui reste une constante. L'appelons-nous l'âme, peut-être. En tout cas, merci d'avoir été là. On vous embrasse.
Merci.
On vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Pour vivre heureux, vivons coachés. Merci.
Merci.
On vous embrasse.
Merci.
À bientôt. À bientôt.
Pour vivre heureux, vivons coachés. Une émission produite et réalisée par Christophe Médicis.